Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM. Bonjour et bienvenue au chaudron des découvertes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Léo et de Robert. Et comme c'est la dernière émission de l'année 2025, on va essayer d'être un peu plus léger.
Delphine et son amie sont paresseusement allongées sur le sable d'une plage de la Martinique. Soudain, la première demande à l'autre: « Peux-tu me dire ce qui est grand comme une pièce de 5 francs, tout noir, très laid et qui avance lentement ?» L'autre répond « Aucune idée, pourquoi ?»« Parce que c'est la chose qui est en train de se promener sur ton dos. »
Bon, ça vous fait rire, Léo et Robert? Moi, ça me fait sourire. Et je me dis, la question, c'est de savoir si ça ferait autant rire s'il s'était agi de deux jeunes hommes. Peut-être un peu sexiste ou pas, je ne sais pas. Mais au fait, c'est quoi l'humour? L'humour vient du mot latin « humor », qui signifie « liquide », selon la théorie des humeurs d'Hippocrate. Repris par les Anglais au XVIe siècle, il revient en France au XIXe sous la forme humour. Humour potache, humour noir, blague, humour trash, plaisanterie, jeu de mots. L'humour peut se décliner de façon variée et être apprécié selon nos goûts et nos références culturelles. Je vais vous raconter une anecdote à l'époque où je travaillais auprès d'adolescents en difficulté. Avec une collègue, nous organisions des ateliers thérapeutiques basés sur la diffusion de courts-métrages qui convoquaient des situations pas toujours drôles, mais qui servaient de base à de la discussion. Et puis un jour, pour détendre l'atmosphère, nous avions décidé de passer un dessin animé qui nous avait fait rire, mais rire, franchement, le gros rire qui défoule. Et donc, nous le visionnons, et repartons de plus belle à rigoler comme des adolescentes. Et là, flop total. Pas un jeune ne rit. Pourquoi? Eh bien, il fallait faire du second degré. Et pour ça, il faut être bien dans sa peau et avoir une certaine habitude de la pratique de l'humour. Comme le dit Anne-Sophie Rochegude dans un article « Vous reprendrez bien un petit coup de rire » dans la revue Science Psy de décembre 2017, même si un bébé peut être réceptif et producteur d'humour, il est évident que l'on ne peut attendre d'un tout petit qu'il puisse saisir des formes élaborées d'humour. Le développement langagier apparaît comme l'élément majeur dans le développement de l'humour. C'est à la fois un concept universel, mais en même temps, chaque langue, chaque culture a sa vision de l'humour. Qui dit humour dit surprise, mais qui dit surprise ne dit pas systématiquement humour et ne mène pas à l'hilarité. Citons à nouveau Anne-Sophie Rochegude. Là où la pensée est fermée, plus de place pour l'humour. Ce dernier décape, creuse, interroge et ne se suffit point de ce qui peut apparaître. Dans l'éternelle distinction de l'être et du paraître, l'humour est précisément ce qui, tel un contre-pouvoir, ose remettre en question le second. Et Anne-Sophie Rochegude de citer elle-même un personnage appelé Françoise dans le film Le Spoons de Marcel Pagnol en 1938. Voici ce que dit Françoise. « Non, non, ne dites pas du mal, du rire, il n'existe pas dans la nature. » Les arbres ne rient pas et les bêtes ne savent pas rire. Les montagnes n'ont jamais ri. Il n'y a que les hommes qui rient. Les hommes et même les tout petits enfants, ceux qui ne parlent pas encore. Le rire, c'est une chose humaine, une vertu qui n'appartient qu'aux hommes et que Dieu, peut-être, leur a donnée pour les consoler d'être intelligents. Bon, nous sommes en 1938 et pour Dieu, c'est à voir, car, comme dirait Woody Allen, si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Mais, après tout, essayons de nous consoler d'être intelligents. Et pour cela, voici un petit panel de productions censées faire rire ou sourire. Films, BD, romans, pas toujours facile de trouver chaussure à son pied. Il semblerait que l'art du comique soit plus difficile que l'art de la tragédie. Pour commencer, je vais évoquer quelques films, dont un vu récemment à la Jeunette Verte, Le mélange des genres, de Michel Leclerc et Baya Kasmi, que je cite, car c'est la scénariste et une femme engagée sur le plan des droits de la femme. Je dois avouer que j'étais un peu sceptique avec un sujet ô combien casse-figure. C'est l'histoire d'une femme flic, infiltrée dans un collectif féministe et qui, pour essayer de ne pas se faire démasquer, va organiser un gros mensonge. Eh bien, ce film vous fait rire ou sourire, c'est selon, et les clichés, qui sont bien sûr à prendre au second degré, passent finalement assez bien. En tout cas, c'est un film dont on sort détendu. C'est déjà pas mal, après tout. Dans un registre totalement différent, le film d'Elia Souleymane, Intervention divine, sorti en 2002, nous conduit vers l'absurdité et l'incongruité. Autour de rendez-vous amoureux dans un checkpoint, seul endroit où les protagonistes peuvent se rencontrer, le réalisateur qui joue justement cet homme amoureux pointe la situation rocambolesque de la Palestine. C'est acide et ironique, mais il y a quand même un esthétisme et des scènes cocasses qui déclenchent inévitablement le rire, même si en filigrane, la violence est présente. Peut-être devrons-nous parler de rire jaune, je ne sais pas. C'est de l'humour, mais c'est aussi une forme de survie. En tout cas, ce film envoie des messages engagés, mais enrobés dans un comique de situation. Et d'ailleurs, dans les techniques comiques utilisées, le personnage de l'homme amoureux ne parle jamais. C'est une stratégie également utilisée dans le film du même réalisateur, It Must Be Even, sorti en 2019. Télérama décrivait Elia Souleymane comme un Pierrot lunaire qui observe le monde sans parler. Et en effet, il observe et nous observons avec lui. Et ce n'est pas triste. Et croyez-moi, cette expression prend tout son double sens. D'autres films ont cette même veine du sourire qui mord. Le cochon de Gaza de Sylvain Estibal, 2011, que j'ai déjà évoqué dans une émission précédente. La visite de la fanfare de Erhan Kolyrin, 2007. Une fanfare policière égyptienne va se trouver bloquée par erreur dans un village israélien. Cynique, drôle, on est confronté à la difficile compréhension entre des peuples différents. C'est peut-être plus facile de rire d'un film issu d'un monde finalement peu connu de nous. En tout cas, il y a une sorte d'humour qui ne laisse pas indifférent. Ces trois films peuvent s'emprunter à la nouvelle dimension.
Deux amis se retrouvent après les vacances. « Où es-tu allé ?» demande l'un. « En Bretagne, puis en Auvergne. Et toi ?» « Une semaine à la montagne. » Et trois autres dans le plâtre.
Et voilà, on passe maintenant, enfin je vais faire un petit crochet par le dessin de presse. Un dessin est parfois plus expressif qu'un long récit et l'art des dessinateurs de presse c'est de nous délivrer un message que l'on comprend aisément et qui, généralement, nous fait rire. Dans le film documentaire « Fini de rire » d'Olivier Malvoisin, réalisé après les attentats de Charlie Hebdo, le réalisateur nous présente des dessinateurs de différents pays qui expliquent leurs conditions de travail et leurs difficultés à savoir ce qu'ils s'autorisent ou pas. La problématique de la liberté d'expression est aujourd'hui de plus en plus prégnante. Mais écoutons Aurel, dessinateur qui a fait le film d'animation Yosep et qui est aussi un dessinateur de presse.
Moi, quel que soit le sujet, finalement, le tabou qui commence à s'abattre un peu sur nous, depuis quelques années sans doute, c'est l'humour. C'est-à-dire que le fait d'employer l'humour, ça gêne de plus en plus de gens. Et c'est pas un tabou en soi, mais que les gens sont prêts à défendre la liberté d'expression, mais à partir du moment où on fait de l'humour et qu'on se moque, ça en gêne de plus en plus de gens. On a déshabitué un peu éventuellement les lecteurs de comprendre le second degré, de même voir le troisième degré, voir le xème degré. J'ai l'impression qu'on mélange un peu tout et qu'on mélange l'humour et la dérision. Et qu'à partir du moment où on fait de l'humour, les gens ont l'impression qu'on se moque et qu'on néglige les choses ou qu'on les traite avec condescendance. Alors que c'est pas ça. Moi, je peux faire de l'humour hyper trash et hyper violent sur des choses que je respecte par-dessus tout.
Dans ce film Fini de rire, on voit également Plantu, autre dessinateur, qui a travaillé pour le journal Le Monde de 72 à 2021 et qui a créé l'association Cartooning for Peace, créée avec Kofi Annan en 2007, dessiné pour la paix. Il organise des liens avec des dessinateurs du monde entier et travaille sur comment ils peuvent contourner les interdits. Du dessin de presse, vous en trouverez dans tous les journaux. Et j'ai fait une découverte. Il existe un salon international de la caricature, du dessin de presse et de l'humour à Saint-Just-le-Martel, dans la Haute-Vienne, qui a lieu tous les ans, fin septembre, début octobre. Et pour celles et ceux que ça intéresse, il y a un concours amateur ouvert aux enfants et aux adultes. Le thème 2025-2026 est l'intelligence de l'humour. Passons maintenant au roman. Ah, là aussi, il n'y a pas toujours consensus sur le potentiel comique d'un roman. Voici donc des romans qui convoquent des styles et des approches bien différentes. Des romans que vous allez ou aimer ou détester. Commençons par Le Pingouin d'Andrei Kourkov, en 1996, traduit en français en 2000. Andrei Kourkov est né en 1961 en Ukraine. Il est écrivain, journaliste. Aujourd'hui, il ne veut plus écrire depuis la guerre. Dans ce roman, on ne s'esclave pas, mais on avance doucement avec le personnage principal, écrivain un peu raté, qui, par miracle, trouve un emploi pour le moins curieux dans un journal. Il doit rédiger des nécrologies sur des personnes encore vivantes. Ce sont ce qu'il appelle des petites croix. Et au départ, il vit seul. Enfin, pas tout à fait, car il a adopté un pingouin. Sa vie, a priori sans histoire, va le faire rencontrer des individus assez spéciaux et surtout, on comprend peu à peu la naïveté du personnage. Car ce roman, qui semble élaboré dans un écrit, on pourrait presque dire simpliste, révèle les travers et la répression du pays. Mais écoutons Robert qui nous en lit un extrait.
Micha arriva, mais pas seul. Une fillette aux yeux ronds de curiosité l'accompagnait. « C'est ma fille, » expliqua-t-il. « Je n'ai pas voulu la laisser seule à la maison. » Il se pencha vers elle, déboutonna son petit manteau de fourrure rousse et lui suggéra « Dis à tonton Vitia comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Sonia, j'ai déjà 4 ans, » récita la fillette en regardant Victor de bas en haut. « C'est vrai que vous avez un pingouin ?» Et voilà, on arrive à peine que déjà, soupira Micha. Il lui enleva son manteau et l'aida à ôter ses bottes. « Allez, avance !» Ils entrèrent dans le salon. « Il est où le pingouin ?» insista-t-elle en regardant tout autour. Il arrive, promis Victor, je vais te le chercher. » Il passa d'abord à la cuisine, d'où il revint avec les deux petites croix, toutes fraîches, qu'il donna à Micha, puis entra dans la chambre. « Micha » appela-t-il, regardant derrière le canapé. Le pingouin était là, debout sur sa couverture, un vieux plaid en poil de chameau, plié en trois, et regardait fixement le mur. « Qu'est-ce que tu as ?» Victor se pencha. Le pingouin avait les yeux ouverts. Il se demanda s'il n'était pas malade. « Alors ?» questionna Sonia, qui était arrivée sans qu'il l'entende. « Micha, on a de la visite !» Sonia s'approcha et le caressa. « T'es malade ?» interrogea-t-elle. Il tressaillit, tourna la tête pour la regarder. « Papa !» s'écria-t-elle. « Il a bougé !» Victor les laissa et regagna la salle. Micha, assis dans le fauteuil, finissait de lire la seconde nécrologie. À son air, Victor comprit que les textes lui avaient plu. « Extra, c'est touchant, de la façon dont tu écris. On voit bien que c'est des ordures, mais on les plaint quand même. Bon, tu m'offres une tasse de thé ?» Ils s'installèrent à la cuisine et parlèrent de la pluie et du beau temps, en attendant que l'eau soit chaude. Une fois le thé infusé et versé dans les tasses, Micha tendit une enveloppe à Victor. « Ton salaire, » dit-il. « J'aurai encore une commande un de ces jours. »« Tiens, au fait, tu te souviens ? Tu avais fait un truc sur mon copain, Serioga Tchekaline. » Victor hocha la tête. « Il va mieux. Je lui ai balancé ta prose sur son fax. Je crois bien qu'il a apprécié. En tout cas, ça lui a fait de l'effet. »« Papa, papa, il a faim !» annonça la fillette depuis la pièce voisine. « T'as un pingouin qui parle ?» demanda Micha en étouffant un rire. Victor sortit un cabillaud du congélateur et le posa dans la gamelle. « Sonia, dis-lui que le repas est servi !» cria Victor enjoué. « Tu entends ? À table !» dit la fillette de sa petite voix. Le pingouin fut le premier à entrer dans la cuisine, suivi de Sonia. Elle l'accompagna jusqu'à son écuelle et le regarda manger, fasciné. « Pourquoi il est seul ? » demanda-t-elle soudain en levant la tête. « Je ne sais pas, » répondit Victor. « En fait, il n'est pas seul, on est tous les deux. Mon papa et moi, aussi, on est tous les deux. » « Quelle bavarde !» déplora Micha.
C'est un peu aigre-doux, mais surtout, il faut aller jusqu'à la fin. Alors, le deuxième roman dont je vais vous parler s'intitule « L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea » de Romain Puertolas en 2013. Romain Puertolas est né en 1975. Il a exercé pas mal de métiers pour finir lieutenant de police, mais il est en disponibilité pour cause d'écriture de romans. Ici, on aborde un road trip au départ assez déjanté. Ce fakir, menteur et malhonnête, vient chercher un lit à clous en France dans un magasin de la marque suédoise bien connue. Et par une série de péripéties, il va se retrouver dans différents pays et faire des rencontres pour certaines invraisemblables, pour d'autres plus réalistes. Et effectivement, sous couvert de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment, le fakir va découvrir des réalités peu sympathiques, comme la vie des migrants et des clandestins, le racisme et la répression. Voici un extrait de ce roman.
La nouvelle charte d'accueil du public de la police nationale décrétait qu'à partir de maintenant, tout bon citoyen français avait le droit de porter plainte pour toutes sortes d'infractions, aussi futiles fussent-elles, et ce, dans le commissariat de son choix. Le policier, lui, qui n'avait aucun droit, avait le devoir de prendre la plainte, aussi fut-il la considéra-t-il, et surtout de ne plus orienter le plaignant vers un autre commissariat pour s'en débarrasser, pratique jusque-là courante. Il régnait donc, depuis quelques mois, une ambiance malsaine entre des victimes courroucées, lasses que la queue n'aille pas plus vite qu'à la poste ou à la charcuterie du coin, et des policiers aigris de n'être que des humains et non pas des poulpes dont quelques tentacules auraient pu au moins être mis à profit pour taper plusieurs procès-verbaux à la fois. Sentiment exacerbé lorsque la nuit tombait, puisque le nombre d'établissements ouverts au public fondait alors aussi vite qu'un glaçon sur le nombril de Kim Basinger, concentrant l'ensemble des victimes parisiennes sur un seul et même point, chose que la fameuse nouvelle charte d'accueil souhaitait précisément éviter. Pas moins de 3 heures s'étaient donc écoulées entre le moment où Gustave avait pris la décision d'aviser la police et celui où il signait, victorieux, sa déposition devant le fonctionnaire de permanence. Soucieux de ne pas rompre l'entente harmonieuse établie par la police de proximité du secteur avec la communauté gitane située de l'autre côté du périphérique, le policier avait dépêché illico, presto, l'officier de nuit et un collègue à IKEA en compagnie de la victime afin de visionner les bandes que les caméras de surveillance avaient enregistrées dans la journée. Ils allaient le retrouver, ce foutu fakir indien qui venait semer la zizanie dans leur minorité, et il rendrait ce qu'il avait volé au taxi jusqu'au dernier centime d'euro. Voilà comment Gustave Palourde, la commandant de police Alexandra Lafèvre et le gardien de la paix Stéphane Demarbre se retrouvèrent, en pleine nuit, dans l'exigu poste de sécurité du magasin à regarder un Indien fraîchement débarqué de son pays qui passait 20 bonnes minutes à admirer les portes automatiques donnant sur le vestibule avant de se décider à entrer. S'il fait ça à chaque porte, on est là jusqu'à demain soir, dit le vigile aux commandes de l'enregistreur. Il n'y a plus aucune porte après, rectifia le directeur du magasin, Monsieur Julio Sympa, en essuyant ses lunettes rondes à la Harry Potter, avec un épais mouchoir en tissu. On pourra toujours visionner la bande en accéléré, ajouta la commandant Lafèvre, certaine qu'avec une telle proposition, elle ne passerait pas pour une conne, chose dont elle avait horreur, comme son nom ne l'indiquait pas.
Une grenouille mâle dépressive se décide à téléphoner à une voyante dans l'espoir qu'elle lui remonte le moral. La voyante lui prédit « Vous allez rencontrer une fille très jolie et qui voudra absolument tout connaître de vous. » « Ouais, super, et quand est-ce que je vais la voir? À une fête sur la mare ?»« Non, vous allez la rencontrer le trimestre prochain en classe de biologie. »
Continuer avec un autre roman, Sexe, mensonge et quiproquo, de, alors je ne sais pas si on dit Tin ou Tyne O'Connell, livre qui date quand même de 1996, traduit en 1998. Personne ne m'a conseillé ce roman, c'est le genre d'achat impulsif dans un contexte de manque de lecture. Je suis dans un village du centre de la France, un peu triste, dont je tairai le nom. Je rentre dans la maison de la presse et cherche le rayon roman. Et je ne vois rien, à part une toute petite étagère où sont alignés tristement 5 ou 6 ouvrages, dont celui dont je vous parle. Et je le prends, malgré sa vilaine allure de vieux roman. C'est ce que j'appelle affectueusement le roman de gare. Le truc qui vous fait oublier le temps et passer un moment sans prise de tête. On ne sait pas grand-chose de cette autrice, sinon qu'elle est née en Australie dans les années 60, qu'elle a beaucoup voyagé et que ce roman est son premier, qu'elle écrit pour la jeunesse, qu'elle a aussi écrit pour Vogue et Marie-Claire, et là, oh là, ça augurait mal pour moi. Mais comme je n'avais rien d'autre à lire, mais écoutons donc un extrait.
Mon corps était fermement calé entre celui des banlieusards qui rentraient sur Notting Hill en train. Le type, en face de moi, me souriait comme si j'étais un bol d'eau, et lui, un chien atteint de la rage. Règle 1. Faire comme si ça n'arrivait pas vraiment. C'est le problème de quelqu'un d'autre. Et si on garde la tête baissée suffisamment longtemps, ça finira par passer. Il fallait considérer ça comme une expérience extracorporelle, parce que sinon, il y aurait eu de quoi traîner tous les salauds de ce train en justice. Ne regardez personne et gardez les jambes bien serrées. Je tenais les fleurs, les épines et le reste contre ma poitrine. Mon Dieu, pourquoi tant de douleur? Il faisait si chaud que mon slip glissait. Et ce n'était pas le genre de lieu où j'avais envie de me retrouver cul nu. Je priais pour que l'IRA laisse la ligne tranquille ce jour-là. Je priais pour que les rails ne fondent pas et qu'aucun train n'ait besoin de réparation urgente après avoir déraillé. Je priais enfin pour que notre train n'explose pas. Je récitais toutes ces neuvaines en fixant le vide du tunnel. Sam et Charles avaient raison. Il était temps de faire une croix sur le passé. Gilles était un salaud, mais ça ne voulait pas dire que je devais vivre comme si j'étais atteinte d'herpès vaginal.
Bah oui, j'avoue, ça m'a détendue. Bon, le dernier roman dont je vais vous parler, c'est encore sur un autre registre. Ça s'intitule « Un enfant plein d'angoisse et très sage » de Stéphane Hoffmann, 2016. Stéphane Hoffmann est né en 1958. Il est romancier, essayiste et chroniqueur. Voici ce qu'il dit. « La culture m'assomme, je n'aime que le plaisir. J'aime ce qui n'a l'air de rien et qui, pour peu qu'on y accorde de l'attention, devient l'essence même de la vie. » Ce qui est drôle dans ce roman, c'est le décalage entre l'attitude de l'enfant, ce qu'il dit et ce qu'il pense. Et ce qui est drôle aussi, c'est le personnage de la grand-mère dont la langue n'est pas toujours d'une grande douceur. Écoutons.
« Je hais ce blondinet qu'on appelle le petit prince. Le petit con du bouquin de Saint-Ex. Lavement que les profs flanquent dans le cul des élèves. » Il fait bien chier, ce petit prince. Prince de quoi? De mes fesses. Si jamais je le rencontre, je lui dirai ma façon de penser. Dans ma classe, à Champitay, il y a un mec qui lui ressemble, avec ses cheveux de paille et son nez retroussé, avec son écharpe et ses bottes. Ce n'est pas lui, je le sais bien, mais tout comme. Il prend des poses à la petit prince. Il s'y croit. Chiqué. Pendant qu'on est au stade, il se promène dans le parc avec des livres. Il s'est fait dispenser de sport. Il nous prend de haut. On lui réglerait bien son affaire. Mais on préfère l'ignorer. Ça servirait à quoi? Les cons, ça repousse. Où avais-je la tête lorsque j'ai pris ce bouquin dans la bibliothèque de grand-mère? J'avais envie d'un truc bien énervant pour entretenir ma mauvaise humeur, c'est-à-dire ma vigilance. Ne pas me laisser endormir par les gâteaux d'Aline. La vie d'un enfant est pleine de pièges, la mienne surtout. Voilà pourquoi je dois sortir au plus vite de l'enfance. Voilà pourquoi je n'aime pas Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est un livre de vieux, écrit pour les enfants. Un livre de lèche-cul. Il nous dit de tout expliquer aux grandes personnes qui seraient plus bêtes que les enfants. C'est un peu l'auteur qui écrit ça. Il flatte les enfants. Ouais, avec moi, ça ne marche pas. Parce que moi, j'ai remarqué que les adultes arrivent à se débrouiller pour faire ce qu'ils veulent. Contrairement aux enfants, qui doivent toujours obéir. Donc, expliquer que c'est mieux d'être enfant qu'adulte, c'est comme dire que c'est mieux d'être esclave que libre. Il ne nous prendrait pas un peu pour des demeurés, le Saint-Ex, avec son nom d'eau minérale ou de soutien-gorge? Dans notre classe, ceux qui adorent le petit prince sont les plus dociles, comme par hasard. Pas étonnant qu'ils aiment l'autre crétin avec son mouton Ça leur va bien. Qu'ils restent entre eux sans moi.
C'est dur, c'est tendre et c'est doucement drôle. Allez, petite pause musicale. Écoutons donc la rumba de l'amour par le groupe Samara Balouf. Pour finir, je vais vous parler d'une BD, La théorie de la contorsion de Margot Moutin. Bon, un peu bobo parisien, mais un dessin d'une grande expressivité, surtout dans les situations où la mère et la petite fille se confondent. Toutes ces situations jouent sur l'autodérision, sur la vie quotidienne, mais c'est surtout le dessin qui dégage vraiment de l'humour. Moi, ça me fait rire, alors je vous en parle. Voici ce que dit Margot Moutin sur la quatrième de couverture.
Je suis quelqu'un d'assez souple dans la vie, en général. Je veux dire, je m'adapte à peu près à toutes les situations. Mais dès qu'on essaie de me ranger dans des cases et de me coller des étiquettes, je suis trop nombreuse. On fait des crises de claustrophobie. C'est mauvais pour mon teint et en plus, après, je digère mal. Je veux bien être mère, ça me va. Illustratrice, c'est cool. Fille, ça me satisfait. De toute façon, si je devais faire pipi debout, j'arrêterais pas de saloper mes godasses. Mais je ne peux pas être que ça tout le temps. Je veux être libre d'être toutes les femmes que j'ai envie d'être, même celles auxquelles j'ai pas encore pensé, même celles que je ne pensais pas vouloir être il y a 5 minutes. Et ça me semble évident que ça serait archi pas écologique tout le papier qu'il faudrait pour coller des étiquettes à toutes ces bonnes femmes. Donc, autant nous laisser courir toutes nues dans les champs de pâquerettes. CQFD.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais d'abord remercier Léo qui a gentiment lu les petites histoires drôles, extraites de « Histoires drôles pour enfants et adolescents » de Robert Lessant. Et Robert qui nous a lu tous les extraits de ses romans. Je vous souhaite beaucoup de plaisir en lecture. Et ben, on va aussi se dire bonne fête de fin d'année après tout. Hein, on est un peu en avance, mais c'est pas grave. Allez, à l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Joyeux Noël.
Livres, BD,
films, musique,
jeux, spectacles. Tu cherches? Tu hésites? Tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes. Sur Radio Barthès 107 FM.